un journal présenté ce soir. Bonsoir et je suis très heureux de vous voir, Stanislas Vazak.
Merci Emmanuel, bonsoir à tous. La rédaction de France Culture est ravie de pouvoir à nouveau vous proposer un journal à 18h. Au sommaire de cette édition, le début du déconfinement en France, sans difficulté majeure pour le moment. Reportage dans le métro parisien et dans un salon de coiffure. Nous évoquerons avec Stéphane Robert le contretemps juridique imposé au gouvernement. Le Conseil constitutionnel n'a pas encore validé la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Enfin, une invitée dans cette édition, la virologue Marie-Paule Chieny. Nous ferons le point sur les recherches pour élaborer un vaccin contre le Covid-19. La France a donc entamé aujourd'hui son déconfinement après être restée confinée pendant 55 jours et un premier constat s'impose ce soir. Cette première étape n'a pas donné lieu à d'incidents majeurs, sans doute parce que des millions de Français restent en télétravail. Dans les transports, les trains, les trams, les bus et les métros étaient loin d'être saturés et les usagers dans leur immense majorité ont respecté les mesures barrières, à commencer par le port du masque obligatoire. Véronique Robérotte s'est rendue à la station Bibliothèque à Paris où se croisent le métro et le RER.
Il y a bien eu quelques wagons bondés sur la ligne du RER B ou la ligne 13 du métro qui dessert Saint-Denis, ligne victime ce matin en tout début de service d'une inondation. Mais globalement, les voyageurs étaient très soucieux aujourd'hui de faire les bons gestes barrières. C'est ce qu'a constaté Dominique, elle habite tout près de Dourdan dans l'Essonne. Elle reprenait son travail dans la restauration collective à Paris.
C'était, tout le monde respecte les dimensions, tout. Non, c'est très bien. On avait tous un masque et sinon on se prend une prune. Hein. Je m'attendais à pire, non mais ça va. Pour l'instant, ça va.
Pour l'instant, c'est ce que dit aussi Mariama, infirmière à l'hôpital Rothschild. Elle craint un relâchement passé le sérieux des premiers jours.
C'est le premier jour du déconfinement. Est-ce que ça va continuer? Je l'espère. À mon avis, est-ce que d'ici la fin de la semaine, voire la semaine prochaine, les gens resteront aussi disciplinés? Je ne sais pas.
L'adjoint au transport de la mairie de Paris, Christophe Najowski, est lui rassuré. Le télétravail a permis d'éviter la saturation dans les métros ou sur les routes.
Globalement, les Franciliens ont respecté les consignes de privilégier le télétravail et donc de rester à leur domicile, puisque ce matin, on a vu qu'il y avait à la fois peu de monde sur les routes et également assez peu de monde dans les transports collectifs. Et donc, je crois que le message qui consistait à ce que l'on évite de se retrouver avec une saturation des transports en commun est bien passé, ce qui fait qu'aujourd'hui la reprise très progressive se passe dans de bonnes conditions.
Certains syndicats de transport insistent ce soir sur la nécessité d'étaler plus encore les horaires de début et de fin de journée de travail pour éviter la saturation des heures de pointe.
Véronique Robérotte a noté que l'UNSA RATP estime de son côté que tout ne s'est pas bien passé aujourd'hui dans les transports parisiens. Dans un communiqué, le premier syndicat de la régie dénonce une affluence excessive sur certaines lignes aux heures de pointe. L'UNSA cite notamment la ligne 13 du métro, le RER B et le tramway T1. Le syndicat se dit prêt à soutenir tout salarié de la RATP qui voudrait faire usage de son droit de retrait parce qu'il se sent en danger. Ce déconfinement doit s'inscrire dans un nouveau cadre juridique, la loi d'état d'urgence sanitaire, votée ce week-end, qui prévoit une limitation des déplacements à 100 km et une attestation obligatoire dans les transports sport en commun. Seulement voilà, le texte n'a pas été promulgué hier soir comme l'espérait le gouvernement. Il faut attendre l'avis du Conseil constitutionnel qui devrait se prononcer d'ici ce soir. Stéphane Robert, il y a là un contretemps susceptible d'alimenter le procès en amateurisme que certains font au gouvernement.
La présidence de la République décline toute responsabilité dans cette affaire. La loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été adoptée samedi par le Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel dans la foulée, indique l'un de ses conseillers à l'Élysée, c'est-à-dire samedi en fin de journée. Et pour des raisons que ce conseiller dit ignorer, les juges de la rue de Montpensier se sont trouvés dans l'impossibilité de se réunir dans la journée de dimanche, c'est-à-dire hier. Le Conseil constitutionnel rétorque, lui, qu'il a été saisi de 4 recours, 2 samedi soir, l'un déposé effectivement par le président de la République et l'autre par le président du Sénat, Gérard Larcher. Et puis 2 autres recours émanant cela de l'opposition parlementaire à l'Assemblée ont été déposés dimanche après-midi. Suite à cela, plaident les services du Conseil constitutionnel, il faut d'une part répondre à tous ces recours en même temps et d'autre part considérer qu'il y a un temps incompressible pour les examiner. Le résultat reste qu'on a créé un vide juridique, vide qui a été comblé par un décret pris en urgence par le gouvernement. Mais ce décret n'a permis de mettre en œuvre que 80% de la loi. Dès lors, il est impossible jusqu'à ce soir d'exiger le respect de la zone des 100 km pour les déplacements et l'obligation d'un certificat de l'employeur pour emprunter les transports aux heures de pointe. Ce vide juridique devrait être comblé dès ce lundi soir si le Conseil constitutionnel évidemment donne son aval, mais il laisse une nouvelle impression de cafouillage dans un contexte de défiance vis-à-vis du pouvoir exécutif pour la gestion de cette épidémie.
Stéphane Robert, merci. Parmi les enjeux de ce déconfinement, il y a la réouverture de la plupart des commerces à l'arrêt depuis près de 2 mois. Exemple d'une reprise d'activité compliquée par les nouvelles règles sanitaires, les coiffeurs. Annabelle Le Grelier s'est rendue dans un salon du 18e arrondissement de Paris.
Ouais, alors il me reste un peu de place en fin de semaine pour vendredi.
Un carnet de rendez-vous presque déjà complet pour la semaine. La reprise pour Edine se fait sur les chapeaux de roue.
J'ai l'impression de faire le ménage toute la journée, mais sinon ça se passe très bien. Désinfecter tous les outils, désinfecter le fauteuil, nettoyer tout.
Masque, visière, distanciation, il a fallu tout improviser, fait remarquer Jean-Pierre, son associé, non sans un peu de colère.
On est enregistré à la Chambre des métiers, on paye des taxes, même au niveau de la mairie, un message au niveau des commerces, faites attention. Bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi je voudrais mettre mes fauteuils dehors parce que je peux pas avoir une salle d'attente. Là je vais tenter le coup, j'ai 68 euros d'amende, j'aurai 68 euros d'amende. Mais je peux pas me permettre d'avoir plus de 8 personnes dans le salon, c'est impossible. Donc voilà, il faut que je gère comme ça quoi.
Côté tiroir-caisse, 2 mois sans rien, dur pour les coiffeurs. Ce qui est perdu ne se rattrape pas dans l'économie de service.
Ah ça, le chiffre d'affaires, on va essayer de le maintenir au mieux quoi. On aurait certainement un peu de retard et ce qui est perdu, hein. On ne pourra pas le rattraper de toute façon. On va essayer de limiter la casse, on va dire.
Heureusement, le salon a retrouvé ses clients. Nina était l'une des premières.
À moi, c'était l'urgence. La première chose que j'ai faite, c'est ça. Pour une femme, les racines.
Alors, l'urgence capillaire passerait-elle avant l'urgence sanitaire?
Non, mais on fait attention. On est venu avec un masque, on respecte les distances. Mais effectivement, hein, je pense qu'on prend un petit risque, hein, forcément. Ouais, sinon, on fait plus rien. On est resté enfermé 2 mois quand même.
Bilan de 2 mois de fermeture pour le patron du salon. 3000 euros d'aide d'État pour la période. Chômage partiel pour ses 2 salariés. Son assurance lui a également fait une remise sur sa prime. Enfin, avec l'aide d'un avocat, il aura réussi à négocier la moitié de son loyer.
Annabelle Grelier, merci. Venons-en à présent aux enjeux psychologiques de ce déconfinement. Il y a bien sûr le soulagement de pouvoir sortir de chez soi sans attestation, mais de nombreuses interdictions restent en vigueur. Et pour certains, ce déconfinement suscite des craintes. C'est un reportage d'Antoine Marette.
Chez la plupart des psychiatres, psychologues et psychothérapeutes, le constat est le même. Pendant ces 2 mois, une bonne partie de leurs patients ont tout simplement disparu. Il n'y a pas eu foule dans les urgences psychiatriques et les téléconsultations mises en place ont connu un succès très relatif. Gérard Hugeron est psychologue clinicien à Rennes. Il intervient notamment sur la plateforme d'écoute mise en place par la ville.
C'est un constat un petit peu général. On se demande un peu où un certain nombre de patients sont passés. Certains ont pris de mes nouvelles à moi, mais peu ont manifesté de difficultés particulières, voire j'ai même une patiente qui m'a dit en gros, c'est le meilleur moment de ma vie, quoi, j'ai jamais tout dit là.
Des patients habituellement en souffrance qui semblent avoir relevé sans trop de difficultés le défi du confinement. Comme si ceux qui ne sont pas toujours très à l'aise avec le monde extérieur trouvaient leur compte dans cette vie cloîtrée jusqu'au 11 mai. Car à partir d'aujourd'hui, le déconfinement progressif pourrait remettre en cause cet équilibre précaire. De nombreux praticiens craignent même des décompensations. Elisabeth Shepard est psychiatre et présidente de la commission médicale d'établissement.
On se demande ce qu'on va trouver en fait. Vous savez, c'est comme la montagne après l'hiver, il a neigé, ça a recouvert d'un manteau tout ce qu'il y a en dessous. Et là, la neige fond et on se demande ce qu'on va trouver dans la montagne une fois que le déneigement aura eu lieu. Et vraiment, on craint de trouver des choses très belle.
Les craintes portent notamment sur une augmentation des violences cachées pendant le confinement, en particulier à l'encontre des enfants et des femmes.
Quand le déconfinement fait peur, c'est une enquête d'Antoine Marette que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Où en est-on dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19? On fait le point avec l'invité de ce journal, la virologue Marie-Paule Kieny, directrice de recherche à l'INSERM et ancienne sous-directrice générale de l'OMS. Elle est également membre du CARE, un comité de scientifiques qui conseille en ce moment Emmanuel Macron. Marie-Paule Kieny répond à vos questions, Margot Delpierre.
Alors l'OMS a recensé déjà plus de 100 candidats vaccins dans le monde. Quand pouvons-nous espérer des résultats au plus tôt?
On pourrait si tout va bien, on pourrait avoir des résultats vers la fin de l'été. Parce qu'en fait, les premiers vaccins qui ne sont pas forcément les premiers par leur efficacité, mais ceux qui sont les premiers, en tout cas, par leur préparation pour aller à des essais de plus grande taille chez l'homme, pourraient entrer justement dans une phase où on va essayer de déterminer leur efficacité vers le mois de juillet. Alors disons qu'il va falloir 2-3 mois si les essais se font dans des endroits où il y a suffisamment de cas, effectivement, pour déterminer l'efficacité. On pourrait donc avoir des résultats vers le mois de septembre-octobre en se disant que les premiers vaccins qu'on va tester vont fonctionner. On ne le sait pas encore parce que notamment le tout premier qui a l'air d'entrer en essai clinique de grande taille, qui est un vaccin fabriqué par une société américaine qui s'appelle Moderna, est quelque chose de tout à fait nouveau. Il n'y a pas chez l'homme pour le moment de vaccin basé sur, disons, cette plateforme, comme on appelle ça. Il s'agit donc d'utiliser de l'ARN, donc le message génétique en fait du SARS-2, on l'injecte au volontaire et c'est donc dans même le corps de ces personnes vaccinées que va être la production de la protéine vaccinante. Alors c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui n'existe pas chez l'homme, mais c'est le vaccin le plus avancé. Savoir si ça va fonctionner, on a de bonnes idées d'après ce qu'on voit en modèle animal, mais on ne sait pas encore. Donc, si ces vaccins fonctionnent, on aura des vaccins testés efficaces relativement vite. S'ils ne marchent pas, il faudra attendre encore quelques mois pour que les autres vaccins arrivent à avoir démontré éventuellement leur efficacité.
Pour l'instant, on ne sait pas vraiment quelle piste il faudrait suivre plus qu'une autre. On teste tout.
Pour le moment, on teste tout, toutes les hypothèses, jusqu'à ce qu'ils échouent, si je peux dire. Il est clair qu'on ne va pas pouvoir tester 100 et plus vaccins chez l'homme. C'est impossible, il n'y a pas de raison pour ça. Mais il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des concepts dans des types de vaccins qui sont différents. Donc on parle de vaccin ARN, là celui de Moderna. Il y a un vaccin basé sur de l'ADN qui suit pas trop loin derrière, fabriqué par une société qui s'appelle Inovio, américaine aussi. Après ça, on a des vaccins qui sont basés sur des vecteurs viraux, c'est-à-dire qu'on utilise des virus qui sont des virus qui ne sont pas pathogènes, qui sont très sûrs chez l'homme, et on les utilise comme cargo pour amener une protéine du SARS-CoV. Donc ça, c'est le troisième type. Après ça, on a des virus qui sont tués, par exemple, pour prendre du SARS-CoV qu'on fait pousser dans des grandes quantités et qu'on tue avec qu'on inactive avec des agents chimiques. Et enfin, on a aussi des vaccins qui peuvent être basés sur des protéines du virus SARS-2 qui ont été obtenues en culture de tissu ou au laboratoire et qu'on utilise comme vaccin dit sous unité. Récemment, on a fait un recensement pour voir quels étaient les vaccins candidats qui étaient en cours de développement, rien qu'en France, et on a vu que dans les laboratoires des chercheurs français, on a une vingtaine de candidats vaccins, mais pour la plupart, ils sont à un stade très amont, c'est-à-dire ils ne sont pas encore prêts, pour la plupart, à passer en essai clinique.
Merci Marie-Paul Kenny.
Merci, c'était un plaisir d'avoir cette conversation avec vous.
La virologue Marie-Paul Kenny qui répondait à Margot Delpierre. À l'étranger, le Royaume-Uni reste le deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19 après les États-Unis. 32 000 morts outre-Manche selon le dernier bilan, 210 décès supplémentaires en 24 heures. Le Premier ministre Boris Johnson a détaillé aujourd'hui un plan de déconfinement progressif, mais sa gestion de crise est loin de faire l'unanimité, notamment en Écosse et au Pays de Galles. Antoine Gignot nous appelle de Londres.
C'est un équilibre difficile à trouver, reconnaît Boris Johnson. Pour éviter un nouveau pic de contamination, tout en relançant l'économie, le Premier ministre n'autorise pas la réouverture des magasins, mais il demande aux Britanniques de retourner travailler au cas par cas.
People who are able
Les gens qui peuvent travailler de chez eux doivent le faire.
Do so.
Ceux qui ne peuvent pas travailler de chez eux doivent discuter avec leur employeur de la reprise et des difficultés qu'ils peuvent éventuellement avoir.
En réaction, les syndicats dénoncent le manque de règles de sécurité, accusent le gouvernement de traiter les ouvriers comme des cobayes, et c'est le même discours en Écosse. La première ministre Nicola Sturgeon refuse d'appliquer les nouvelles règles.
Je veux redire que pour l'instant, ces annonces ne s'appliquent pas ici en Écosse. Et ce n'est pas pour une quelconque raison politique. C'est parce que pour le moment, le gouvernement écossais n'est pas sûr qu'on puisse faire ces changements en Écosse sans prendre le risque que le virus devienne de nouveau incontrôlable.
out of control again.
Pas de changement non plus au Pays de Galles, qui maintient des règles strictes de confinement par peur d'une augmentation du nombre de malades.
Antoine Gignot, notre correspondant au Royaume-Uni. Ce déconfinement est déjà une réalité assez avancée en Allemagne, dans le nord du pays. Le Land de Mecklembourg-Poméranie était même le premier ce week-end à rouvrir ses bars et restaurants. Un vent de liberté s'est mis à souffler sur les rives de la Baltique, dans la ville touristique de Stralsund, mais où réouverture rime aussi avec inquiétude. Le reportage de Marie-Pierre Véraud.
Sur la grande place de Stralsund, la terrasse de la brasserie Le Lion d'Or a fait le plein ce week-end, dès que le soleil a pointé son nez. Mais pour combien de temps? Le patron Martin Roos s'inquiète.
Le problème, c'est que non seulement nous n'avons pas la clientèle internationale, mais pas même les touristes allemands. Rien qu'avec les locaux, cela ne suffit pas pour survivre. Ici, d'habitude, nous recevons des Suédois, Norvégiens, Danois, Français, Suisses. Mais dans un premier temps, il nous faudrait au moins les Allemands. Ce sera peut-être possible dans 2 semaines.
Lui sait qu'il survivra, mais il ne pense pas sortir du rouge avant l'automne 2021, si tout va bien. Beaucoup d'autres établissements vont disparaître, pense Martine, les plus petits notamment. Les aides de l'État ne suffiront pas à les sauver. D'ailleurs, les 3/4 des restaurants de la ville n'ont pas encore rouvert. Les charges sont trop élevées face à l'incertitude. Le chef du Cheyenne, resto façon western, a tenté sa chance, mais Tommy, le serveur, n'est guère optimiste.
Vous voyez, c'est l'heure du dîner et il n'y a presque personne. Ce que je crains, c'est que notre chef nous appelle pour nous dire qu'on va fermer de nouveau. On ne sait pas.
Car les cas repartent à la hausse dans certains Länder, le risque d'un nouveau confinement existe.
Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale en Allemagne. Un mot du temps demain, calme et agréable dans l'ensemble, mais frais sur la moitié nord. Le ciel sera plus nuageux au sud, alors que le soleil s'imposera plus facilement au nord de la Loire. Les températures minimales seront comprises entre 1 et 16 degrés du nord-est à la Corse. Les maximales oscilleront entre 12 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. Prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture demain matin 7h avec Catherine Dutu. Mais à 18h15, nous saluons un autre retour. Le temps du débat avec vous, Emmanuel Laurentin.
Merci beaucoup, Stanislas Zazak, et à demain.